Si vous aviez besoin de renouvellement de force ce matin en venant au culte et que ça va mieux, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. C'est l'Éternel qui donne de la force. L'Éternel donne de la force à qui est las. Il augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même de robustes gaillards, on en avait quelques-uns ce matin, tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas parce que ce sont nos jeunes qui ont magnifiquement conduit cette première partie que nous pouvons être renouvelés à la fin de ce culte. Isaïe ne veut pas qu'on passe à côté. Même les plus grands gaillards, les plus robustes, tombent. Et puis d'ailleurs, si vous prenez le temps de discuter avec chacun d'entre eux, vous rendrez compte que, bah oui, ils ont aussi leur propre préoccupation, que les choses ne sont pas aussi faciles que ce qu'un culte peut parfois laisser croire, là où on est devant. Nos forces ont besoin d'être renouvelées. Et si ce n'est pas Dieu qui le fait, eh bien tout cela est en vain. On aura certes vécu un bon moment ce matin, mais si ce n'est pas l'œuvre de l'Éternel, c'est une œuvre sans puissance. Ceux qui comptent sur l'Éternel, apprendre à compter sur l'Éternel. C'est le mot d'ordre que l'on s'est lancé depuis le mois de septembre ici à l'église de Farmoutier. Et nous parcourons le livre d'Ésaïe pour découvrir les clés de la parole de Dieu à ce sujet. Alors je vais laisser ce fantastique verset là, de « Ceux qui comptent sur l'Éternel ». Ça c'était pour les groupes de maison. Moi aussi je vais faire mon petit moment pub, là. Je vois qu'Antonio tu maîtrises ça parfaitement. Donc si jamais vous auriez aimé méditer sur ce fantastique verset, il faut venir à un groupe de maison. Il y en a encore un, je crois, qui va avoir lieu vendredi prochain. Donc c'est encore possible de profiter de ce moment qui est vraiment important dans notre vie d'église pour vivre la totalité de ce qu'on veut vivre ensemble. Mais quand même, on va quand même méditer quelque chose qui prolonge ce qui compte sur l'Éternel. Et c'est un autre fantastique passage que je vous invite à lire ce matin, toujours dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, nous allons lire les versets 1 à 7. Ésaïe 43, versets 1 à 7, et le texte sera projeté pour vous. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par mon nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je me ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Septentrion, donne, et au Midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Pardon, je n'avais pas bougé les diapos. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Ce texte fait partie des fantastiques versets des plus fantastiques passages de l'Ancien Testament, ceux qui expriment sans doute plus fortement l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Des versets encourageants qui apparaissent généralement peut-être sur nos calendriers de prière, chez nous, là, vous savez, ces petits versets à effeuiller, le verset du jour qui arrive sur notre smartphone, des versets qui touchent directement notre cœur. « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les fleuves, je serai avec toi, et les eaux ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Des versets qu'on aime écrire sur des magnifiques cartes postales, comme on a là, c'est souvent là qu'on les voit, avec un de ces gentils animaux, ou un de ces magnifiques paysages qui nous éblouit. Et c'est une bonne chose. C'est un bon moyen de nous rappeler les promesses de Dieu à notre égard. Mais comme souvent dans la Bible, la situation est un peu plus complexe que celle-là. C'est là où les raccourcis d'un verset peuvent nous tromper parfois sur ce qu'il veut dire vraiment. En fait, ce ne sont pas vraiment des belles déclarations écrites sur une carte postale que Dieu veut nous envoyer pour que nous comprenions la force de son amour pour nous. Il y a derrière ces mots, ces beaux paysages, ces belles photographies, beaucoup de larmes, beaucoup de sueur, beaucoup de sang parfois même. Et c'est l'exhortation que j'aimerais vous proposer ce matin, au fil un petit peu de nos réflexions. Pour celui qui veut apprendre à compter sur l'Éternel, il n'y a pas de raccourci. Pour celui qui veut apprendre à compter sur l'Éternel, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci parce que Dieu lui-même ne prend pas de raccourci pour nous sauver. Et c'est le premier point que je vous invite à méditer ce matin. Et pour cela, on a besoin de comprendre comment Ésaïe 43 fonctionne à l'intérieur du livre d'Ésaïe. J'espère que ce ne sera pas trop technique. J'essaierai de ne pas forcément entrer dans trop de détails. Rassurez-vous, la deuxième partie ira plus sur les versets qu'on vient de méditer. Mais c'est important de comprendre pourquoi ce passage arrive à ce moment-là du livre. C'est compliqué de couper un livre comme Ésaïe en parties, on a du mal parfois à s'y retrouver, c'est long, ça, il n'y a pas vraiment une chronologie, mais une chose sur laquelle à peu près tout le monde s'accorde, c'est qu'on peut quand même repérer deux parties. Les chapitres 1 à 39, ceux qu'on a lus jusqu'à présent, pour ceux qui suivent donc la lecture suivie de ce livre dans l'Église, et puis ensuite les chapitres 40 à 66. Et donc dans la première partie du livre, les chapitres 1 à 39, Ésaïe a consacré sa prédication à parler du jugement de Dieu qui allait s'abattre sur son peuple. Un jugement qui certes n'annulait pas l'espoir, on a parlé d'espérance ce matin, Dieu garde ses promesses pour son peuple, mais un jugement comme inéluctable, comme un préalable même au salut que Dieu veut donner à son peuple et qui prend différentes formes dans toute cette première partie. Tout d'abord, c'est un jugement en réponse au rejet que Dieu constate parmi le peuple et parmi les responsables en particulier. Et ça, c'est surtout les 12 premiers chapitres qui en parlent. Et puis ensuite, c'est un peu la surprise, on voit Israël comme mis au banc des accusés au même titre que toutes les autres nations païennes qui l'entourent. Et ça, ce sont les chapitres 13 à 27. Et puis ensuite, les versets 28 à 35 pointent le véritable enjeu de l'époque d'Ésaïe, c'est toute la question des alliances politiques auxquelles étaient tentés les responsables pour s'extraire de la menace de l'empire terrible de l'époque, l'empire assyrien. Mais les paroles de jugement dans la Bible ont toujours un but, apporter la repentance, enfin conduire à la repentance du peuple. Ça ne marche pas toujours, mais c'est ça la volonté de ces prophéties. Prendre la sortie de secours, éviter de s'embarquer dans tout ce que Dieu prédit, prévoit si le peuple s'endurcit dans ses voies. Et on peut dire que la dernière partie du livre s'est terminée avec une certaine note d'optimisme. Vous vous rappelez, hein, Ésaïe avait été prévenu que sa prédication ne porterait pas de fruits, qu'il allait sortir à des oreilles sourdes, à des cœurs endurcis. Pourtant, un roi, semble-t-il, a pris pour lui ce qu'Ésaïe prêchait, c'est le roi Ézéchias. Gordon, j'en ai parlé il y a 3 semaines, pas un roi qui a tout fait bien parfaitement, mais un roi qui, au moment fatidique, a placé pleinement sa confiance en Dieu. Et vous vous rappelez ce que cela a permis? Le miracle de Jérusalem, ce peuple assyrien si fort, si puissant, qui a tout dévasté sur son passage, qui arrive, qui encercle Jérusalem, mais qui finalement lève le siège, parce qu'il apprend une nouvelle d'un autre peuple qui vient le combattre, et Jérusalem ainsi est sauvée. Ézéchias a placé sa confiance en Dieu, il y a cette formidable prière, et Jérusalem est sauvée. Et finalement, les prédictions d'Ésaïe ne s'appliquent pas aussi fortement qu'on aurait pu le craindre dans toute cette première partie. Alors on se dit, tout est bien qui finit bien finalement. Le message d'Ésaïe a porté. Il a porté du fruit. Jérusalem est sauvée. Mais alors, quelle n'est pas notre surprise quand on passe dans cette deuxième partie du livre et qu'on lit les premiers versets du chapitre 40 qui commence par « Consoler ». Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Quelle mouche a piqué Ésaïe. Un peuple qui vient de vivre un miracle du même titre que le passage de la mer Rouge, que l'assèchement du Jourdain, qui a vu Dieu agir de ses propres yeux de manière miraculeuse, forte. Le peuple, l'armée assyrienne la plus menaçante qui soit, a rebroussé chemin. Et pourtant, Ésaïe, au lieu de pousser le peuple à la louange, commence sa deuxième partie de son livre par ces versets énigmatiques, mystérieux. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. On entre là un peu dans le mystère particulier de ce prophète. Mystère pas tant sur le contexte, parce qu'on sait à peu près bien ce qui s'est passé. En fait, si en 701, l'armée assyrienne a rebroussé chemin, 150 ans plus tard, il n'en sera pas de même. Les armées babyloniennes, elles, vont faire le siège de Jérusalem. La ville tombera totalement. Les murailles seront détruites et même le temple de Dieu sera incendié, mis en ruine. C'est ce à quoi font écho les quelques versets qui précèdent le passage que nous avons lu. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard ? N'est-ce pas l'Éternel ? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Si le pire a été évité de justesse, donc à l'époque d'Ésaïe, le constat, c'est que le pire a bel et bien fini par arriver à cette époque, au moment sur laquelle Ésaïe prédit. Et nous voilà donc arrivés un peu au cœur de ce mystère de ce livre d'Ésaïe, ces chapitres 40 à 66, qui sont un livre de consolation et de salut. Un livre que probablement les contemporains d'Ésaïe ne pouvaient pas comprendre, puisque eux, ils avaient vécu la libération et la délivrance glorieuse de Jérusalem. Mais un livre qui prendra tout son sens 150 ans plus tard pour la génération de l'exil babylonien. Un livre de salut et de consolation qui, plus que tout autre, révèle une facette essentielle de notre relation avec Dieu. Le Dieu éternel, tout-puissant, exprime le plus intensément son intérêt pour nous, non pas par les actions miraculeuses telles que la génération Ézéchias l'a vécu, non, il exprime le plus intensément son intérêt pour nous par la force qu'il nous donne pour traverser les moments les plus périlleux de notre existence, comme la génération qui a vécu l'exil à Babylone. Un message d'ailleurs incarné dans toute cette deuxième partie par, peut-être vous l'avez en tête, la personne du serviteur souffrant. Quatre chants du serviteur souffrant qui préfigurent Jésus-Christ, mais qui, contrairement à beaucoup d'autres livres dans la Bible, n'est pas présenté comme un roi, mais là comme quelqu'un qui souffre dans son corps, dans son âme, et qui vit les persécutions, les mêmes que le peuple vit à Babylone. À nos cris désespérés face aux situations qui nous submergent, Ésaïe répond « Ceux qui comptent sur l'Éternel voient leur force qui se renouvelle. » Et il précise ici au chapitre 43 comment ces situations stressantes, frustrantes, nous aident à approfondir de manière unique son amour pour nous. C'est sans doute une des vérités de l'Évangile qu'il est le plus urgent à transmettre quand on veut transmettre l'Évangile. Bien mieux que des promesses cartes postales, les temps d'épreuve que nous redoutons à juste titre nous révèlent bien plus profondément la force et l'intensité de l'amour de Dieu pour nous. Il n'y a pas de raccourci pour expérimenter l'amour de Dieu pour nous. Chaque étape, chaque circonstance prend place en son temps. C'est comme un grand puzzle dans lequel Dieu ajoute patiemment chacune des pièces pour nous révéler progressivement la hauteur, la longueur, la profondeur de son amour pour nous. Ok, il ne s'agit donc pas ici, dans ce fantastique passage d'Ésaïe 43, de promesses de restauration rapide, d'un avenir sans nuage, mais plutôt la subsistance constante d'un Dieu qui nous accompagne tout au long du trajet, quoi qu'il arrive. Ok. Alors maintenant que nous avons un peu retouché l'arrière-plan de nos cartes postales, hein, on a un peu flouté ces aspects peut-être un peu naïfs, un peu... C'est fantastique et tout est beau quand on marche avec Dieu. Nous sommes en mesure maintenant de regarder d'un peu plus près les vérités énoncées dans ces versets, celles qui sont au premier plan. Parce qu'elles nous aident en effet à revêtir notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Au fur et à mesure que nous allons marcher dans notre vie chrétienne, elles vont résonner de manière plus précise dans nos vies. Et là aussi, d'une certaine manière, il n'y a pas de raccourci pour revêtir cette nouvelle identité que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Alors examinons maintenant trois des promesses que ce passage nous donne. Première promesse, Dieu nous appelle par son nom. Je t'appelle par ton nom. C'est fort, non ? Quand quelqu'un nous appelle par notre nom, ou plutôt, je pense que dans notre contexte, c'est le prénom qui fonctionne bien. Ça dit quelque chose, non ? C'est pas la même chose de dire « Mijatovic » ou « Not ». Hein ? On préfère la deuxième formule. Je porte un nom, Robin, qui peut être aussi un prénom. Et quand des gens connaissent des Robins dans leur entourage, ils ont tendance à confondre les deux. Alors sur le fond, j'ai aucun problème. Mais honnêtement, quand on dit Robin, ah, ça m'agresse. Et je dois faire un effort pour... Ok. Il n'a rien contre moi. Et puis pour ceux qui ont des enfants, appeler son enfant par l'entier de son nom-prénom, Laurine Peterschmidt, c'est souvent pas bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. La manière dont on nous appelle en dit long. Alors imaginez, un peuple en terre étrangère, exilé depuis une génération, un peuple qui se sent rejeté, abandonné, qui s'attend à être appelé pour des remontrances, eh bien l'Éternel l'appelle par son nom, prénom, pour lui dire « Tu es à moi ». À combien plus forte raison, nous qui avons vécu l'entier de la réconciliation avec Dieu, on n'est plus dans la même situation que les exilés, on a cette certitude que rien ne nous sépare, on l'a encore entendu tout à l'heure, de l'amour de Dieu. À combien plus forte raison pouvons-nous entendre Dieu nous dire tendrement « Xavier, Fred, Marie-Claude » Entendre Dieu nous appeler par notre nom, c'est comme revenir à la maison du Père. C'est la première expérience exaltante que fait tout chrétien lorsqu'il décide de placer sa confiance en Dieu. Mais cette expérience continue ensuite tout au long de sa marche chrétienne. Parce qu'après nous découvrons qu'il ne connaît pas seulement notre nom, mais l'entier de notre vie. Les recoins les plus secrets, les choses dont on a honte, dont on aimerait que personne ne puisse savoir, il sait tout de ça. Il sait tout de nous. Et pourtant, il continue de nous appeler par notre nom. Parce que nous sommes uniques à ses yeux. Nous sommes à lui. Première promesse de ce passage. Deuxième promesse, parce que nous avons du prix à ses yeux. Un prix très concret dans ce passage. C'est comme une sorte d'échange d'otages. Dieu sort le porte-monnaie, verse la bourse sur la table et échange son peuple contre d'autres peuples de la terre. L'Égypte, l'Éthiopie, Saba. Tout cela pour qu'Israël puisse être libéré. C'est une manière extraordinaire, hein, d'annoncer 150 ans à l'avance que Cyrus, le roi perse, va en effet donner la libération à ce peuple, Israël, qui était exilé donc à Babylone depuis 70 ans, lui permettre de retourner chez lui, mais qu'il étendra son royaume jusqu'à d'autres contrées comme l'Éthiopie, l'Égypte, Saba, là où l'empire de Babylone n'était pas allé. Une image très géopolitique, hein, qui a ses limites, bien sûr. Il ne s'agit pas là de voir un dieu faible qui marchande pour libérer son peuple. Mais au contraire, imaginez un dieu à qui appartient tous les peuples de la terre, qui les a tous sous ses pieds, à qui appartient la terre entière, mais qui pourtant accepte de payer le prix fort pour libérer son peuple esclave à Babylone. Et bien sûr, nous qui sommes de ce côté-ci de la croix, nous pouvons dire que dans l'Évangile, notre valeur est immense. Elle n'est plus quantifiée par un échange de nations aussi puissante que soit l'Égypte et l'Éthiopie à l'époque d'Ésaïe. Non, dans l'Évangile, notre valeur devient inestimable. Nous sommes rachetés au prix de la vie du Fils de Dieu sur une croix. Là encore, une telle affirmation ne tolère aucun raccourci. On l'entend souvent, hein, dans les témoignages, les jours de baptême des enfants de familles chrétiennes. Jésus est mort pour tes péchés. C'est une vérité qu'on entend tellement dans nos cultes que elle a du mal à avoir un sens profond quand on grandit dans la tradition d'une église. Et puis ensuite vient la décision de suivre Dieu. Et c'est fantastique d'entendre comment dans ces parcours, cette vérité à bras théorique soudain transperce le cœur de celui qui place sa confiance en Dieu. Il réalise qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Mais là encore, une vérité qui n'est pas seulement une porte d'entrée dans le salut, elle vient refonder toute notre identité dans notre marche sur cette terre. Parce que pour celui qui vit vraiment cette idée qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, plus besoin de prouver sa valeur aux autres, plus besoin de trouver sa place par ses compétences, par ses études, par ses réussites. Ce n'est plus ce que les autres disent de lui qui compte. C'est ce que Dieu dit de lui. Tellement libérateur. Autre changement fondamental, celui qui transforme l'indicible sentiment de solitude que l'on peut tous avoir, oh, même quand on est entouré d'une famille, d'amis. Vous savez, cette impression terrible d'être au milieu d'autres, mais d'avoir l'impression d'être transparent, invisible, de ne pas exister. Cette extraordinaire parole d'Ésaïe 43 refonde notre identité. Tu n'es pas transparent, tu n'es pas seul. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, parce que tu as de la valeur à mes yeux, dit l'Éternel. Tu as été soupesé, évalué, et ta valeur a été trouvée inestimable. Il a fallu pas moins que le Fils de Dieu sur une croix en échange de ta vie. Troisième promesse. Troisième promesse qui, elle aussi, fait son œuvre en son temps. Dieu promet sa présence à nos côtés, notamment dans les situations les plus extrêmes. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Les éléments les plus effrayants de notre terre sont devenus comme incapable de nous arrêter. Voilà des promesses dont avait bien besoin un peuple exilé depuis 70 ans à Babylone et qui soudain entend un édit qui lui dit qu'il peut retourner en pays promis. On aurait tendance à se dire « Waouh ! Fantastique nouvelle ! Que du bon ! Voilà ce que ce peuple attendait depuis 70 ans qui devient une réalité maintenant !» Mais en situation humaine, c'est pas comme ça que les choses se passent. Après 70 ans, le voyage retour de Babylone à Jérusalem n'était pas sans susciter là aussi quelques craintes. Une génération qui avait grandi à Babylone, qui avait reconstruit sa vie ici, qui avait peut-être une maison, une terre, appelée à nouveau à laisser une vie derrière elle. Et puis entre Babylone et Jérusalem, il y a un désert, avec tout ce que cela comporte, de danger, d'hostilité, d'épuisement. Et puis pour quelle perspective ? Il n'y avait rien qui les attendait là-bas, si ce n'est une ville à rebâtir. Aucune terre, aucune maison. Il fallait tout recommencer depuis zéro. Celui qui décide de placer sa confiance en l'Éternel vit des étapes similaires, souvent un démarrage euphorique. C'est fantastique la vie avec Dieu. Il est avec nous. Et puis on se rend compte progressivement que la route que Dieu veut pour nous est plutôt une route avec certaines embûches à surmonter. La route n'est pas paisible. La promesse de la présence de Dieu à nos côtés n'est pas pour nous éviter les fleuves et le feu. Ce que Dieu nous promet, c'est que quand nous aurons à passer par là, nous n'aurons rien à craindre, car il est à nos côtés, et que rien ne pourra nous submerger. Alors, que garder de tout cela ? Bien sûr, le premier plan de ces versets cartes postales, ces promesses extraordinaires. Dieu nous appelle par notre nom. Il nous rachète à un très grand prix. Il nous promet sa présence au milieu des épreuves. Mais aussi, cet arrière-plan qu'on a commencé un petit peu à flouter, pour pas qu'il nous trompe. L'Éternel n'est pas dans l'instantané. Il ne nous a pas envoyé ses promesses par un tweet, un commentaire sur Snap. Il n'y a pas de raccourci pour apprendre à compter sur l'Éternel. Pas de raccourci, mais deux conditions, et je finis avec ça. Si ces promesses ne sont pas instantanées, par contre, il faut m'engager à les vivre pour pouvoir les vivre. Il n'y a pas de raccourci pour commencer. Parfois, on hésite à s'engager, on se dit que on voudrait bien profiter un peu de la vie avant de faire confiance à Dieu. Parfois, on a un peu essayé de suivre Dieu, mais ça n'a pas donné ce qu'on imaginait. C'est un peu comme vouloir pratiquer un sport exigeant à moitié. Ça craque les ischio-jambiers. Seul celui qui s'engage pleinement à suivre l'Éternel peut apprendre, peut expérimenter les promesses que nous venons de méditer. Seul celui qui s'engage pleinement à suivre l'Éternel peut apprendre à compter sur l'Éternel. Première condition, c'est pas possible de juste picorer et rester en retrait, se dire « Ah, il nous faut nous engager pleinement ». Deuxième condition, ne pas croire, ne jamais croire que je suis arrivé. Il n'y a pas de raccourci pour commencer, il n'y a pas de raccourci pour arriver. La manière si mystérieuse mais si magistrale dont Dieu révèle son plan dans le prophète Ésaïe, encourager et consoler une génération qui arrivera deux ou trois générations après celle d'Ésaïe, la manière dont Dieu utilise toute sa parole, écrite dans des contextes si différents de la nôtre, pour nous enraciner dans la connaissance profonde de son nom, devrait nous garder de toute autosuffisance, de toute assurance assommante dans notre marche avec lui. Seul celui qui garde le désir d'approfondir ses promesses tout au long du voyage fait vraiment partie de ceux qui comptent sur l'Éternel. Il n'y a pas de raccourci pour apprendre à compter sur lui. Mais c'est un chemin qui vaut vraiment la peine. Et le culte que nous avons vécu ce matin, avec nos jeunes qui nous ont conduits, nous rappelle que c'est un chemin que nous sommes appelés à vivre ensemble, à nous réjouir et à nous encourager, à compter sur l'Éternel avec ce que chacun nous pouvons apporter. Que Dieu nous aide ici à Farmoutier, à faire ce chemin ensemble. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'incroyable, le Dieu des actions qui nous dépassent. Et tu es aussi ce Dieu qui veut prendre soin de nous dans les recoins de nos vies, qui veut nous montrer la force et la puissance que tu peux nous donner si nous plaçons notre confiance en toi pour affronter tous ces montagnes, tous ces géants qui nous découragent. Seigneur, je te prie ce matin pour ceux qui sont justement dans ces moments difficiles, eh bien qu'ils puissent voir de quelle manière tu veux les accompagner, de quelle manière tu veux leur démontrer que tu es avec eux dans ces moments difficiles. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui, ce matin, sont dans l'hésitation peut-être à te suivre. Seigneur, il n'y a pas de vie plus belle, de vie plus abondante, de vie plus merveilleuse que de compter sur toi. Apprends-nous à le montrer, apprends-nous à le vivre, apprends-nous à le faire. Seigneur, nous avons besoin que ce soit toi qui vienne visiter nos cœurs ce matin. En ton nom, Seigneur. Amen.